Chapitre 5. Plusieurs dizaines d'années après son calvaire, Hendrickson retrouvait le trou dans lequel sa mère l'avait obligé à s'enfoncer autrefois. Jane le suivait à quelques marches de distance, au cas où il aurait eu des velléités de rébellion, ce qui était peu probable. L'étroit escalier semblait se construire progressivement à la lueur des torches, tel un édifice imaginaire tout droit sorti d'un rêve. Il avait été creusé par la nature il y a plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme sur Terre, à la suite de quelques confrontations tectoniques brutales entre la Sierra Nevada et le mont Carson. Ce passage naturel était constitué d'une longue suite de cavernes superposées, reliées entre elles par des galeries en pente qui descendaient vers le lac à travers la roche. Il était parcouru de boyaux menant à des grottes voisines, différentes de celles qui s'alignaient à la verticale. À en croire Hendrickson, certains de ces passages s'enroulaient sur eux-mêmes, comme des intestins, et rejoignaient l'escalier principal en formant un dédale inextricable de galeries. D'autres s'achevaient en cul-de-sac, parfois au bout de plusieurs dizaines de mètres, parfois sur près d'un kilomètre, avant de rétrécir au point qu'un enfant n'aurait pu y ramper. Son cabas accroché à l'épaule gauche, Jane tenait de la main droite une bombe de peinture fournie par Gilberto. À chaque embranchement, elle dessinait sur le sol une flèche en direction de la sortie. Si le temps lui-même avait fait le gros du travail, les hommes s'étaient emparés de cette œuvre d'art naturelle afin de la modeler à leurs besoins. Chaque fois que la pente devenait trop raide, des marches avaient été creusées dans la roche. Le sol était parcouru de crevasses, larges pour certaines de 2 mètres, que des planches permettaient de traverser. Lorsque le père de Booth avait découvert l'escalier, ses ponts de fortune avaient disparu, pourris par l'humidité, depuis longtemps, et il lui avait fallu les remplacer. Dès le début de la descente, Jane vit Hendrickson se figer à l'entrée d'une vaste caverne. Il se plia en deux en se tenant l'estomac, sans pour autant se retourner et implorer Jane de ne pas l'obliger à continuer. Il se redressa au bout d'une minute et poursuivit sa route à travers la grotte fendue en deux par une crevasse traversant le sol comme le plafond. Il régnait dans ce lieu une atmosphère médiévale pesante et des odeurs suspectes de décomposition flottaient dans l'air. La partie droite de la caverne était plus haute que la gauche d'une 20aine de centimètres. Et tandis que le plafond à droite était lisse, son jumeau de gauche était couvert de pics acérés, évocateurs d'une herse de château fort. Des gouttes d'eau brunâtre s'écoulaient de ces stalactites laquées par l'humidité et s'écrasaient sur le sol boueux. De part et d'autre de la faille, des centaines de mains coupées, dont il ne restait que les os, luisaient de façon sinistre à la lueur des lampes, leurs doigts donnant l'impression de se tordre de façon implorante lorsqu'ils n'étaient pas repliés comme sous l'effet de la rage. Les squelettes des mains abandonnées dans les parties sèches de la grotte étaient blancs et bien conservés, à l'inverse de ceux qui gisaient dans les zones humides, jaunis ou marbrés de taches brunes lorsqu'ils n'étaient pas couverts d'un duvet de moisissure. Ayant entendu Hendrickson lui détailler le contenu de ce lieu monstrueux, Jane savait à quel tableau d'horreur s'attendre au cours de son périple. Mais le spectacle qu'elle découvrait était plus terrible encore qu'elle ne l'avait imaginé. Elle parvenait difficilement à s'expliquer la présence de ces ossements. Pour avoir longtemps côtoyé le monde des tueurs en série, elle était persuadée de trouver là des trophées, à en juger par la façon dont les os du poignet avaient été brisés et arrachés, sans doute parfois du vivant de leur propriétaire. Cette grotte témoignait de violences innommables, de brutalités insignes, de guerres archaïques et d'assujettissements indignes. Quant aux caractères tracés sur les parois de la caverne, tels des runes étranges, ils dessinaient des cris de haine.
Regarde. « Sale petit lâche, regarde !»
murmura Hendrickson.
« Si quelqu'un te veut du mal, coupe-lui les mains avant qu'il puisse passer à l'action. »
Les êtres qui avaient taillé ces marches et modelé cette grotte à leurs besoins étaient forcément les assassins de ces centaines de victimes. Ils avaient transformé cet escalier naturel en un ossuaire diabolique. On connaissait la présence de tribus paléo-indiennes dans cette région 12 000 ans avant notre ère, mais on ne savait quasiment rien de ces gens, sinon qu'ils chassaient de gros gibiers, y compris des mastodontes. Leurs outils, des massues et des pointes de flèches de silex ou d'obsidienne, étaient bien trop primitifs pour les autoriser à tailler la pierre comme cela avait été fait dans cette grotte. On leur attribuait des attitudes pacifiques, mais les traces qu'ils avaient laissées dans leur sillage faisaient d'eux de simples fantômes perdus dans la brume de la préhistoire. Seule une datation au carbone 14 aurait permis de savoir qui avait imaginé ce lieu infernal. Qui sait si les peuplades anciennes de la région ne possédaient pas des outils plus sophistiqués qu'on ne l'imaginait. Lors de son interrogatoire dans la cuisine de Gilberto, Hendrickson avait expliqué que les Indiens Washoe étaient longtemps restés sous le joug des Paiutes du Nord, à une époque nettement moins reculée. Peut-être ce temple de violence était-il le fait d'un parti de Paiutes particulièrement brutaux. Les Indiens Marti avaient également vécu dans cette région pendant 2500 ans, avant de disparaître sans laisser de traces au milieu du premier millénaire avant notre ère, à l'époque où d'autres tribus inventaient l'arc et la flèche. Il n'était pas impossible que cette grotte abrite leurs restes. Hendrickson continuait de réciter les paroles de sa mère, dont l'écho évoquait le murmure de 1000 pattes sur les parois rocheuses. « Regarde bien, mon fils. Qui sait si ces gens n'ont pas été mangés après avoir été démembrés ? Nous ne sommes pas loin de l'endroit où les membres de l'expédition d'honneur ont avalé la chair de leurs morts pour survivre. On affirme souvent que les loups se dévorent entre eux. Les hommes ne valent guère mieux. » Jane tenta d'imaginer Booth Hendrickson, obligé de dormir dans un coffre cadenassé jusqu'à l'âge de 5 ans lorsqu'il était puni, contraint par la suite de hanter seul ce labyrinthe, avec la promesse d'en être délivré uniquement lorsqu'il atteindrait le bas de l'escalier du diable. Muni d'une lampe les premières fois, par la suite sans la moindre lumière, avançant à tâtons le long de ces boyaux aux murs suintants d'humidité, sur ces marches biscornues et ces planches posées au-dessus des crevasses, à travers ces cryptes remplies de trophées génocidaires, tel un fantôme errant dans une obscurité hantée par des bruits inconnus et des présences inexplicables, parfois perdu pendant 2 ou 3 jours, survivant en buvant l'eau glacée de flaques au goût innommable. Hendrickson était un misérable, mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un semblant d'admiration pour lui, en pensant à ce qu'il avait enduré sans sombrer dans la folie, en apparence tout du moins, car ses épreuves avaient fait de lui un être tordu et impitoyable. Lors de ses pérégrinations dans le noir, il avait cessé d'être un petit garçon pour se métamorphoser en monstre. Booth était le minotaure de ce labyrinthe. Sans se nourrir de chair humaine à l'image de son prédécesseur crétois, il avait perdu toute humanité. À mesure qu'elle avançait dans ce dédale de cavernes, Jane voulut se souvenir qu'elle tenait en laisse un monstre à figure humaine. Mais l'histoire ne lui avait-elle pas enseigné que les monstres finissaient invariablement par s'échapper ?